Bonjour et bienvenue dans notre podcast dédié aux dirigeants de PME industrielles. Aujourd'hui, dans notre série sur la RSE, nous allons décrypter la nouvelle directive de l'Union européenne sur le reporting de durabilité des entreprises, plus connue sous l'acronyme CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive. La CSRD vise à imposer aux entreprises la publication d'un rapport de durabilité permettant d'avoir une lecture claire et normalisée de leur performance extra-financière. Avant d'aller plus loin, je laisse la parole à Alexandra Solon, responsable RSE chez Visiative, qui nous rappelle ce qu'est la durabilité des entreprises.
Pour moi, la durabilité, elle a deux aspects. Le premier aspect, c'est réfléchir au présent en ayant une attention vers le futur. Donc vraiment se dire que le développement actuel d'une entreprise et de ses activités ne doit pas venir en dommage finalement pour les besoins futurs et pour les générations futures qui prendront le relais dans la conduite de l'entreprise et de la société. Et le deuxième aspect pour moi de la durabilité, c'est de réfléchir au caractère vertueux, au caractère d'utilité que comprend le développement durable. La valeur ajoutée que crée une entreprise, elle est plurielle. Elle est aussi sociale, sociétale, environnementale. Et donc, c'est vraiment penser cette valeur ajoutée créée dans sa globalité.
Ainsi, la CSRD cadre la façon dont les entreprises vont devoir considérer leur impact environnemental, social et de gouvernance. Cette réglementation est considérée par tous comme un tournant. Pour les uns, apportant encore plus de contraintes législatives, et pour les autres, comme une opportunité unique de créer en Europe des entreprises qui montreront qu'un développement vertueux pour tous est possible. Au cours de ce podcast, nous allons décomposer cette directive en montrant ce qui évolue et comment s'y préparer efficacement. Surtout, nous allons comprendre comment ce défi réglementaire peut devenir un levier de croissance et d'innovation pour une PME industrielle. Commençons par présenter cette nouvelle réglementation. C'est une mise à jour importante de la précédente directive NFRD pour Non-Financial Reporting Directive. Elle vise à améliorer la transparence des entreprises en matière de durabilité. Alexandra Solon nous présente les points clés.
Donc, c'est une directive au niveau européen qui vient remplacer la directive de la DPEF, Déclaration de Performance Extra-Financière, qui est en fait l'acronyme désignant le rapport d'activité RSE, qui était une obligation pour certaines entreprises, moyennant de rassembler différents critères de chiffre d'affaires, de collaborateurs et ou de position sur un marché coté. Donc, la CSRD rentre en vigueur. Alors, elle a été transposée en fin d'année 2023 dans les textes nationaux, donc notamment en France, et elle va rentrer en vigueur progressivement. Et donc, la CSRD, quel est son propos? C'est effectivement de accroître le reporting extra-financier, donc même on parle maintenant de reporting de durabilité, des entreprises. Donc là où auparavant, dans le cadre des différentes DPEF, les entreprises pouvaient pousser finalement les enjeux qu'elles souhaitaient dans un rendu, on va dire, alors c'est pas marketing, mais en tout cas il y avait un rapport d'activité qui était fait, où on avait un petit peu toute latitude à mettre en avant différentes problématiques. La CSRD va obliger les entreprises à reporter sur des indicateurs et des périmètres qui vont être obligatoires pour les entreprises. Donc plutôt que ce soit les entreprises qui amènent ces sujets, c'est la réglementation qui va demander aux entreprises de reporter de manière du coup plus transparente, puisqu'il va y avoir des définitions obligatoires, en fonction bien évidemment du secteur d'activité, de la taille, etc., et sur un périmètre beaucoup plus large. Donc, en fait, le mouvement derrière, pourquoi cette évolution-là? C'est pour pouvoir faciliter aussi la comparaison, finalement, entre les entreprises, au sens où Si tout le monde reporte sur la même chose, on va pouvoir plus facilement aussi mesurer les écarts, les avancées, les déceptions, on va dire, par rapport au secteur d'activité, à des entreprises similaires, etc. C'est pour éviter le greenwashing aussi, puisque forcément, si on est plus transparent et sur une base obligatoire, il y aura peut-être moins aussi de latitude pour les entreprises qui menaient ce type de pratique. Et puis, c'est né de la volonté de pouvoir faire en sorte que l'Europe soit le premier continent neutre d'un point de vue carbone à horizon 2050.
On le comprend bien, la CSRD vient renforcer des pratiques de reporting qui existent déjà. En augmentant la qualité et l'étendue des informations que les entreprises devront divulguer, elle a trois objectifs. Tout d'abord, augmenter la transparence en fournissant plus d'informations sur les performances extra-financières et en rendant les entreprises plus lisibles et plus comparables pour les investisseurs et les consommateurs. Ensuite, elle aide à la prise de décision en renforçant le lien entre reporting financier et extra-financier. Les informations fournies aideront les parties prenantes, dont les investisseurs, à prendre des décisions basées sur des données de performance, de durabilité multicritères. Enfin, elle va soutenir la transition écologique en encourageant les entreprises à adopter des pratiques plus durables et à soutenir la transition vers une économie plus verte. Ainsi, en obligeant les entreprises à jouer un rôle central dans la transition vers l'économie durable, la CSRD est un élément clé de la lutte contre le changement climatique et dans l'objectif de l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone en Europe à l'horizon 2050. Mais quelles sont les exigences nouvelles de la CSRD? Nous en parlons avec Alexandre Meyer, fondateur de Good Step.
La grosse nouveauté avec CSRD, c'est que non seulement on donne un cahier des charges qui est très exigeant sur la production des informations, donc avec les ESRS, donc c'est des normes qui sont très détaillées donc au niveau des sujets à traiter. Donc il y a 10 ESRS. Des sujets et 80 topics et subtopics. Donc, ça va évidemment de l'environnement, du climat au bien-être des collaborateurs, la pollution, la gouvernance. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un qui est très vaste. Pour chacun de ces sujets, il y a des points de données à récolter, donc qui s'appellent les data points, et il y en a 1182. Donc, c'est une véritable usine à gaz de reporting avec une méthodo pour arriver à la construction de ce rapport. On doit rendre cette information auditable, notamment sur la prise de décision de ce qui est dans le rapport ou pas. Si on dit, par exemple, que la pollution de l'eau n'est pas un sujet pertinent pour moi, donc je ne vais pas reporter dessus, peut-être que c'est le cas, mais dans tous les cas, il faudra prouver non seulement la véracité des informations produites, mais la prise de décision sur les informations qui ne sont pas produites. Et ça, c'est très novateur.
Le calendrier est serré aussi, puisque la CSRD est applicable dès l'exercice 2024 pour le premier lot d'entreprises éligibles. Et ce n'est qu'en 2028 qu'environ 50 000 entreprises européennes seront soumises à ce reporting de durabilité. Mais comme l'explique Julien Casagrande, l'impact sera beaucoup plus rapide sur les entreprises.
Il y aura forcément une contrainte par cascade au bout d'un moment, parce que l'entreprise de 2 ou 3 salariés va avoir unipersonnel travaillera forcément à un moment donné, là, forcément, avec une entreprise plus grosse qui lui imposera de transposer sa politique ou de l'étudier. Et c'est un peu cette façon-là d'infuser au final les différents sujets qui permet d'avancer et de démultiplier l'impact.
Nous avons abordé les contraintes. Mais à l'heure où les appels d'offres publics comme privés intègrent dans leurs critères de choix des engagements RSE de plus en plus contraignants, où les collaborateurs attendent du sens dans leur mission et où même les fonds d'investissement font de la durabilité un élément de valorisation des entreprises, la CSRD serait-elle le coup de pouce nécessaire pour forcer une transition vertueuse? Nous donnons la parole à Alexandra Solon.
Moi, je pense que c'est une évolution très positive parce que déjà, ça permet de lever le doute sur la véracité des actions qu'on avance. C'est-à-dire que là où, si on n'a pas de base de comparaison, on peut toujours avoir des externes ou des tiers qui peuvent venir dire, bah voilà, c'est que de l'affirmation, il y a pas d'acte derrière, etc. Là, au moins, ça permet de mettre tout le monde sur le même pied. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir venir vraiment montrer, mais de manière transparente, ce qu'on fait et qui sera mesuré à l'aune de KPI qui sont obligatoires. Donc déjà, le fait d'objectiver, à mon sens, son action, c'est une bonne chose. La RSE peut être prise dans un premier temps comme une contrainte, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose de nouveau pour certaines entreprises de mettre en place ce type de suivi transparent et obligatoire. Donc, il y a quand même une conduite du changement à apporter qui n'est pas simple. Et franchement, ça serait hors sol de dire ça va se faire super facilement, il n'y a pas de souci. Voilà, ça pose quand même des questions de pratique, de process, de workflow, d'avoir aussi des ressources dédiées qui permettent d'emmener et d'accompagner ce changement-là. Donc, ça ne se fait pas de manière simple, ça, c'est sûr.
Listons les opportunités. Il y a des opportunités vis-à-vis des parties prenantes, avec une démarche qui est crédibilisée par des indicateurs tangibles qui valorisent les engagements pris et les actions mises en place. Le dialogue sera renforcé et permettra de créer de nouveaux partenariats pour imaginer des solutions à des problèmes communs. Ensuite, il y a des opportunités vis-à-vis des concurrents, en donnant la possibilité de comparer les performances RSE et les positionnements les uns par rapport aux autres, il sera plus facile d'identifier les bonnes pratiques pour s'améliorer, mais aussi de mettre en avant les différenciations pour valoriser sa démarche auprès de parties prenantes stratégiques comme les clients ou les investisseurs. Enfin, et surtout, la CSRD oblige les entreprises à repenser leur business model. En matérialisant et en mesurant leur impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est l'opportunité de prendre une longueur d'avance par rapport aux concurrents internationaux sur un sujet qui s'imposera tôt ou tard à tous comme un impératif vital. Pour cela, il faut sortir d'une vision silotée de la RSE au profit d'une approche intégrée, obtenir des données pertinentes et fiables, mesurer l'ensemble des impacts positifs et négatifs, ainsi que les risques et les opportunités pour améliorer une performance globale et identifier les potentiels d'innovation pour assurer la transition de business model.
C'est un outil réglementaire, mais qui en fait vient ouvrir la réflexion de la stratégie de développement d'une entreprise sur son aspect durable. Donc en fait, là où il ne faut pas le cantonner à une obligation, une contrainte réglementaire qui vient peser et alourdir et venir effectivement en contrainte du business, c'est que c'est vraiment venir faire rentrer ces questions de durabilité dans la réflexion globale de développement de l'entreprise et donc se poser la question de comment mon entreprise va évoluer de concert avec son environnement externe et ne va pas être impactée négativement par des choses qu'elle n'aurait pas eues dans son scope. Et il faut vraiment prendre la CSRD finalement comme une boussole qui va venir, en tout cas, permettre d'avoir un panorama global des questions environnementales à l'entreprise et ça va permettre quand même d'avoir une conduite du business qui sera plus en conscience, on va dire, de l'environnement dans lequel il s'insère. La CSRD, en fait, elle amène juste à ouvrir la focale là-dessus. Et donc, soit, en fait, il y aura deux choses. Soit les entreprises seront impactantes et impactées par différents items, le changement climatique, la pollution, l'inclusion des femmes, je ne sais pas quelle autre, la pratique éthique des affaires. Soit elle est impactée et impactante là-dessus, et donc on va attendre d'elle qu'elle monitore, donc dans un premier temps qu'elle mesure et qu'elle mette en place des actions. Soit elle ne l'est pas, et à ce moment-là, on va pas venir lui demander de produire de la data et de mettre en place des actions sur des choses sur lesquelles elle n'est pas impactante. Maintenant, La CSRD va attendre à ce qu'il y ait des KPI, donc il y a un monitoring de cette, de ces sujets-là qui soient faits. Maintenant, le plan d'action derrière, on n'y est pas encore hein, sur la manière dont la CSRD sera auditée, mais de manière quand même logique, on ne pourra pas demander à une entreprise qui vient d'absorber la CSRD, qui produit des KPI qu'elle ne produisait pas avant, de derrière mettre en plan un plan d'action béton, etc.
Alors justement, comment se préparer? Selon Alexandra Solon, il faut cartographier ses risques pour réaliser un état des lieux où se trouve l'entreprise et visualiser la trajectoire possible pour progresser par la suite.
Une entreprise, quand elle doit réfléchir à sa survie et à l'après, elle réfléchit dans une optique d'anticipation des risques. Ce qui est essentiel, c'est de cartographier ces risques pour les prévenir et donc permettre à l'entreprise d'être pérenne dans un contexte évolutif. Et finalement, ces risques qu'on appelle extra-financiers, mais maintenant, il est plutôt attendu qu'on parle de risques de durabilité, ou en tout cas, voilà, de questions de survie finalement et de contribution vertueuse de l'entreprise. En effet, ça, c'est essentiel parce que typiquement, et on le voit de manière assez flagrante, le changement climatique, c'est un des risques les plus tangibles finalement aujourd'hui. Et si une entreprise ne se pose pas la question de comment le changement climatique interfère sur son activité et comment son activité peut avoir un impact sur le changement climatique, il y a des questions effectivement de survie relativement dans une optique assez rapide qui peuvent se poser. Mais il y a aussi effectivement les risques plutôt dits sociaux, sociétaux, et on peut même parler aussi des risques plutôt liés à l'éthique, à la gouvernance, où effectivement une entreprise qui par exemple va s'implanter dans un pays qui ne va pas se poser la question comment on peut dire, des pratiques qui sont en cours sur la conduite des affaires dans ce pays, ou effectivement, quelles sont les réglementations à l'œuvre au niveau du droit du travail, est-ce qu'il y a un respect du travail décent, etc. Ça, c'est des éléments, si on ne se pose pas ces questions-là, il y a un risque assez concret qui existe pour les entreprises.
Pour faciliter cet exercice, il existe des plateformes digitales de diagnostic qui permettent aussi de réaliser les consultations de parties prenantes, de collecter et de standardiser l'information pour produire le constat, définir la stratégie, puis piloter les actions à partir d'indicateurs. Alexandra nous explique comment se déroule un audit.
Le contrôle et l'audit du coup de la CSRD va se faire de la même manière qu'il se fait aujourd'hui sur la DPEF. Des auditeurs vont venir contrôler la donnée chaque année, et c'est là que ce dialogue justement intéressant et essentiel pourra se faire, parce que derrière la donnée, il y a une réalité des pratiques et de l'activité qu'il faut rendre compte. Et donc, c'est là-dessus, on va avoir cette CSRD qui va être un regard objectif à travers des données, mais aussi du narratif qu'on va pouvoir fournir. Et ces éléments-là narratifs, on va pouvoir venir les abonder quand il y aura effectivement cet audit qui aura lieu. Sachant que cet audit, il va progressivement renforcer, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était sur une assurance limitée. Donc, c'est-à-dire que quand on dit assurance limitée, ça veut dire qu'il y a 20% des données à peu près qui sont auditées. En 2028, on va basculer sur une assurance raisonnable, où là, il y aura un audit sur plus de 50% des données. Donc, on va être sur un audit qui va être aussi fort que la certification des comptes que connaît chaque entreprise à l'heure actuelle. C'est pour ça que c'est important que les entreprises, elles anticipent l'entrée en vigueur de la CSRD pour pouvoir voir justement qu'est-ce que requiert la réglementation. Est-ce que je dois dégager des ressources financières, humaines? Est-ce que j'ai des outils? Un outil qui me permet aujourd'hui de tracer la data qu'on va me demander d'avoir, de faire ce qu'on appelle le gap analysis. Donc, gap analysis, c'est vraiment regarder les données qu'on a à l'heure actuelle, qu'on reporte, qu'on soit sur une DPEF ou non, et voir celle que va me demander la réglementation CSRD. Donc, je compare, je regarde, je vois sur quels enjeux je vais être impacté et impactant. Et ça va se faire grâce à l'exercice qu'on appelle analyse de double matérialité. C'est ni plus ni moins qu'une consultation des parties prenantes, internes et externes.
Pour conclure, la CSRD représente bien plus qu'une simple exigence réglementaire. C'est une invitation à repenser l'entreprise sous l'angle de la durabilité, non seulement pour répondre aux attentes de transparence et d'engagement social et environnemental, mais aussi pour découvrir de nouvelles voies de croissance et d'innovation. Je laisse la parole à Alexandra Solon.
On est parti du principe que les entreprises devaient jouer le jeu, les investisseurs aussi, donc tous les acteurs financiers sont soumis à ce même type de directive. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les investisseurs, où en fin de compte, les investisseurs vont de plus en plus demander à comprendre quelle est la dimension durable des actifs de leur portefeuille. Et si on ne... L'effet derrière, c'est que si on ne montre pas qu'on est durable sur une base, encore une fois, obligatoire, donc il n'y a pas de greenwashing possible, les investisseurs iront flécher leur investissement ailleurs. Donc, c'est vraiment dans ce mouvement-là que la CSRD vient renforcer les pratiques de reporting extra-financier qui étaient déjà à l'œuvre aujourd'hui.
J'espère que ce podcast vous aura éclairé sur cette directive. Nous vous proposons un dernier épisode qui présente l'exemple de Visiative et ses actions RSE. Vous pouvez aussi télécharger notre point de vue sur visiative.com. À bientôt! Thank you.